Il y a une saga qui a fait le tour du monde, qui a captivé une bonne partie de l'humanité, mais qui est terminée maintenant. C'était Game of Thrones, le trône de fer, je crois que ça a été traduit en français. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. C'est une saga où c'est une série où il y a eu plusieurs saisons, et puis c'est une intrigue politique avec des histoires abracadabrantes, avec des meurtres, avec des trucs de sexe, avec des trucs. Voilà. On imagine voilà, une histoire qu'il n'y a qu'un peu de personnes qui auraient pu mettre en place. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Moi, je ne l'ai pas vu. Parce que j'ai commencé, je me suis dit, il y a tout le monde qui en parlait, j'ai voulu le regarder. Puis au premier épisode, les premières images, on voit des cavaliers qui arrivent. Et puis, il y a des têtes qui sont plantées sur des pics. Puis je me suis dit, cette série, ce n'est pas pour moi. Mais comme tout le monde en parlait, que j'avais envie d'un peu de savoir ce qui se passait, j'ai lu le livre, parce qu'il y avait des livres à la base qui ne collent peut-être pas tout à fait au scénario. Et c'est assez incroyable de voir toutes ces intrigues politiques familiales. Et en fait, je crois qu'il y a... Et ça a passionné tout le monde. Et je me suis dit, la Bible est vraiment un livre passionnant aussi. Et ce matin, on va lire une histoire qui est aussi une intrigue politique, familiale, avec... une histoire abracadabrante comme on ne pourrait pas l'imaginer. Et quand on lit cette histoire, on va la voir ensemble. Eh bien, si vous avez des problèmes de famille, si ça vous arrive, vous allez vous dire que c'est rien par rapport à ça. Alors, je vais lire ce texte en 2 Samuel, chapitre 20. On va lire du verset 4 et suivant. Le roi... C'est une histoire qui concerne David. Le roi dit à Amasa, « Convoque-moi d'ici à 3 jours les hommes de Juda, et toi, sois ici présent. » Amasa partit pour convoquer Juda, mais il tarda au-delà du temps que le roi avait fixé. David dit alors à Abishai, « Sheba, fils de Bikri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le, de peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux. » En fait, Sheba, fils de Bikri, c'est un opposant à David. David, c'est le roi légitime, et puis il y a quelqu'un qui veut prendre le pouvoir. Et il essaye de fomenter une révolte contre David, et il vient de fuir pour essayer de rassembler ses troupes. « Prends toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le, de peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux. » Et Abishai partit, suivi des gens de Joab, des Kérétiens et des Pélétiens et de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Sheba, fils de Bikri. Lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gabon, Amasa arriva devant eux. Joab était ceint d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu. Elle était attachée à ses reins, dont le fourreau, d'où elle glissa, comme Joab s'avançait. Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère ?» Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Amasa ne prit pas garde à l'épée qui était dans la main de Joab. Et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre, sans lui porter un second coup. Et Amasa mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Sheba, fils de Bikri. Un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Amasa et il disait « Qui veut de Joab et qui est pour David ? Qu'il suive Joab !» Amasa se roulait dans le sang au milieu de la route et cet homme, ayant vu que tout le peuple s'arrêtait, poussa Amasa hors de la route dans un champ et jeta sur lui un vêtement. Lorsqu'il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient, quand il fut ôté de la route, chacun suivit Joab afin de poursuivre Sheba, fils de Bikri. Seigneur, nous venons devant toi pour être à ton écoute. Nous avons lu ce texte qui fait partie de ta parole et on a interpellé par la violence de ces propos, par la violence de cette histoire. Mais Seigneur, on croit que tu veux nous parler à travers de ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël et on veut être attentif à ta parole. Amen. Alors je vais raconter des histoires absolument horribles ce matin, donc je le ferai d'un ton assez léger. C'est pas pour dire que c'est pas grave ce qui s'est passé, c'est simplement que sinon on n'arrivera pas au bout de l'histoire. Donc voilà, vous imaginez la scène. Hein. David, en opposant, il envoie un homme rassembler ses troupes pour aller botter les fesses à Sheba. Cet homme, Amasa, met trop de temps pour rassembler ses troupes, donc il se dit, mais il faut que ça avance là. Donc il appelle un autre de ses généraux, il demande de rassembler ses troupes. Ce général prend son frère avec lui. Et alors que Amasa arrive, eh bien, Joab lui plante une épée dans le ventre et le laisse agoniser dans son sang au bord de la route. Les troupes commencent à se rallier à Joab, hein, Amasa est mort, ils ne peuvent plus se rallier à lui. Et ils commencent à se rallier à Joab, mais c'est quand même un peu perturbant cet homme qui est là en train de se rouler dans son sang au bord de la route. Alors il y a un serviteur qui est là, qui est en train de dire « Mais suivez Joab », qui prend le corps, le met au bord du chemin et met un manteau par-dessus. Et l'histoire est réglée. Alors, pour comprendre un peu ce qui s'est passé, on est obligé de remonter un peu dans le temps. Et on va ce matin survoler un petit peu l'histoire de David, et je vous laisserai relire le livre de Samuel, et puis même avant, si vous le souhaitez. Mais c'est une histoire qui se trouve dans 2 Samuel et qui termine dans le livre des Rois. Des fois, on a un peu de la peine à lire la Bible. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Mais il y a des périodes comme ça, on a un peu plus de mal à lire la Bible, et ça m'arrive aussi. Et des fois, quand j'ai envie de me remettre à lire la Bible, je lis l'histoire de David, parce que l'histoire de David est absolument passionnante. Je te laisse peut-être mettre l'image. Non, vous ne la trouvez pas. Alors ça, c'est très embêtant. Pour ceux qui sont en ligne, j'ai mis l'image sur la page principale de notre site web, elle est aussi dans la description de la vidéo. En fait, l'image qui va peut-être apparaître, ou peut-être pas, c'est simplement un arbre généalogique de David. David est le fils d'Isaïe, qui est aussi appelé Jessé. Et puis David a de nombreux fils. Alors je ne vais pas tous les énumérer, parce que quand on lit en chronique, il a 19 fils. Et puis ça, c'est seulement les fils de ses femmes, parce qu'encore, il a eu des concubines et il a eu plein d'autres fils encore. Et puis il y a seulement une fille qui est mentionnée, Tamar. Et il en a encore eu certainement de nombreux autres. Mais ce matin, on va parler un petit peu d'Amnon, qui est le fils aîné de David. Amnon, c'est le fils aîné de David. Et puis, il a une jolie sœur qu'il aime beaucoup. C'est sa demi-sœur, en fait. Ils n'ont pas la même mère. Et Amnon, il dit « Waouh, elle est magnifique !» Alors, il trouve un stratagème, et puis il lui saute dessus, il la viole. Et après l'avoir violée, il la prend en dégoût. Alors il la viole, il la prend en dégoût et il la met dehors. Ah, puis comme on n'était pas encore à l'heure de MeToo, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Tamar, sa sœur, va chez son frère Absalom et Absalom lui dit « Écoute, c'est notre frère, on ne peut pas faire grand-chose, reste chez moi, je prendrai soin de toi. » David, dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Hein, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, je dis rien. Il fait rien, il n'est pas content, mais il fait rien. Alors Absalom, il n'est pas content parce qu'il aime bien sa sœur, et puis il trouve quand même que Amnon, ça a été un sale type. Alors il attend, il laisse passer les choses, et puis 2 ans plus tard, il fait un grand banquet et il invite Absalom enfin un grand banquet et il invite tout le monde. Il invite son frère Amnon, et pendant ce banquet, eh bien, il zigouille son frère Amnon. Je vous avais dit, hein, c'est une intrigue politique, il faudra suivre. Hein. David, là, il n'est pas content. Vraiment, il est rouge de colère. Et puis Absalom, il se dit, aïe, 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 les choses vont se gâter. Alors, Absalom, il part à Guershon, je crois que ça s'appelle. C'est des noms bizarres, c'est un autre pays. Il part dans un autre pays parce qu'il se dit, mais il faut que je sauve ma peau. Puis il part à Guershon, en fait, parce qu'il faut savoir que Absalom, c'est sa mère. Eh bien, c'est la fille d'un des rois qui a régné sur Guershon. Hein, donc, il part dans le royaume d'à côté parce qu'il se dit, mais il y a de la famille là-bas, David, il n'osera pas m'attaquer et je serai en paix. Puis en fait, David, il aime bien Absalom. C'est vraiment un fils qu'il aime bien. Et puis, il est quand même un petit peu triste, puis Absalom est triste là-bas. Et puis, il se dit, mais aïe, c'est embêtant cette histoire. Puis, Joab, on a entendu parler, c'est celui qui va un peu conduire les troupes. En fait, Joab, c'est le chef de l'armée de David à cette époque. Et puis Joab, il se dit, mais ça va pas, mon roi, il est triste. Il faut qu'on trouve une solution à cette histoire. Alors, il va vers le roi, il fait preuve de ruse, il envoie une de ses servantes et tout. Enfin, il fait preuve de ruse et il arrive à convaincre David de ramener Absalom jusque chez lui. Donc, le roi accorde la grâce à Absalom de pouvoir retourner vivre en Israël. Et puis, après quelques temps, Absalom, il ne va pas vivre à Jérusalem parce que le roi, il dit, bon, quand même, tu ne viens pas vivre à côté de moi. Mais au bout de quelques temps, Absalom, il dit, mais si je suis loin de toi, ça sert à quoi que je sois là? Alors, le roi dit, bon, c'est bon, tu peux venir à Jérusalem. Alors, Absalom vient à Jérusalem. Et Absalom, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais peut-être qu'il se dit, mais mon père, il m'aime bien. Peut-être qu'il avait un peu la prééminence sur ses autres frères, parce qu'en fait, Amnon, c'était l'aîné. Il y a un deuxième fils, je crois qu'il s'appelle Daniel, et puis après, il y a Absalom. Daniel, on n'en entend jamais parler dans la Bible, et on entend beaucoup parler d'Absalom. Et je me demande s'il n'avait pas un peu le rôle du fils aîné. Quoi qu'il en soit, il a peut-être remarqué une petite flébèche chez David, et puis Absalom, c'est un beau parleur. Et ce n'est pas seulement un beau parleur, c'est un bel homme. Alors, il se dit, mais tiens, si mon père n'est pas plus assis dans son pouvoir, eh bien, peut-être que j'ai la possibilité de prendre le pouvoir à sa place. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Absalom? Il fait ce que font en général ceux qui ne sont pas contents avec le pouvoir en place. C'est qu'il commence à le critiquer. Et non seulement il critique le pouvoir en place, mais il dit, écoutez, si moi je régnais, je ferais bien mieux que vous. Et puis il s'assied à la porte de Jérusalem. Puis la porte de Jérusalem, c'est l'endroit où se réglaient les litiges. On voit dans l'Ancien Testament, quand il y avait un problème, quand il y avait quelque chose à régler, ça se faisait à la porte de la ville avec les sages de la ville. Et Absalom se met à siéger à la porte de la ville pour rendre justice au peuple. Quelle justice? J'en sais rien. Mais ce qu'il dit, c'est « Ah, vous n'entendez pas, votre roi n'entend pas votre cause, moi je l'entends. » Et puis petit à petit, il forme une conspiration, les gens s'attachent à lui. Et puis, un beau jour, eh bien, il se fait proclamer roi. Et David, quand il entend ça, eh bien, il a les chocottes. Et David, il prend la poudre d'escompette, il part. Il part, et puis il arrive à faire en sorte, donc il part, Absalom vient, j'ai comparé ça à Game of Thrones avant. David, il se dit, bon, je ne vais pas laisser le palais complètement vide, donc il laisse quand même 10 concubines, hein, là. Et Absalom revient à Jérusalem, voilà, il prend ses concubines pour femme ou pour concubine, je ne sais pas. Et il s'installe à Jérusalem. Et là, David reçoit un coup de maître. C'est qu'il arrive à influencer les conseillers d'Absalom pour faire penser à Absalom qu'il ne doit pas poursuivre David. Donc Absalom ne se met pas à poursuivre David. Et ça laisse le temps à David de rassembler ses troupes, de rassembler ses forces. Et une fois qu'il a rassemblé ses forces, eh bien, il se met en campagne contre Absalom. Et puis alors que... il a rassemblé ses forces, il distribue le commandement de ses armées entre Abishai. Il distribue ses forces entre Abishai, Joab et encore un autre homme qui vient de Gath, je crois. Bref. Et il part faire la guerre. Mais avant de les envoyer, il dit, s'il vous plaît, ne faites pas de mal à Absalom. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête à David, je n'ai jamais compris ce bout-là. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas lui donner une bonne fessée à son fils? C'était certainement ce qu'il méritait. Mais il dit non, moi j'aime bien Absalom, ne lui faites surtout pas de mal. Ils partent en campagne, ils ont la victoire, et Absalom, alors qu'il est sur sa monture, Absalom, je vous ai dit, c'est un bel homme, puis il a une magnifique chevelure, puis il est en train de faire tagada sur sa monture pour fuir les horreurs de la guerre, et alors qu'il passe sous un buisson, sa chevelure se prend dans un térébinthe, je crois, et il se retrouve soulevé entre ciel et terre. Fâcheuse posture, quand même. Et il y a quelqu'un qui le voit, et puis qui va vers Joab, puis qui dit, il y a Absalom, là, qui est capturé. Puis Joab, il dit, mais pourquoi tu lui as pas tranché la tête? Puis le serviteur, il dit, mais je vais jamais faire ça, parce que David, je vous ai bien entendu dire qu'il ne fallait pas faire de mal à Absalom. Alors, Joab, il dit, il fallait le mettre à mort, j'irai le faire moi. Et il arrive, Puis il n'est pas très cool, hein, Joab. Faut pas oublier que c'est un homme de guerre. Hein. Il lui donne trois coups de lance dans le bide. Et ça suffit pas à le faire mourir. Donc je pense qu'il n'était vraiment pas content contre Absalom. Puis après, ben, il le met à terre et puis il l'achève. Mais je pense que Joab, il ne devait pas être content avec Absalom. Hein. Vous imaginez, il est allé caresser le roi dans le sens du poil pour que Absalom puisse revenir en Israël. Et puis après, cet homme qui l'a fait revenir en Israël, à Jérusalem, il a essayé de prendre le pouvoir. Alors je pense que Joab, il devait être vraiment en colère contre Absalom. Il s'est dit, mais je l'ai aidé, puis lui, après, il me fout dans la haine. Alors voilà, il le zigouille. Et qu'est-ce qui se passe quand les hommes viennent apporter la nouvelle à David? Chose étonnante, David, au lieu de se réjouir qu'il a gagné la guerre, qu'il a eu la victoire, eh bien, il pleure parce que son fils est mort. Et finalement, bon, il reprend le dessus, il remercie ses hommes, et il dit, eh bien, Joab ne sera plus le chef de l'armée. Et il dit, ce sera maintenant Amasa. Mais il ne le dit pas tout à fait comme ça. Alors Amasa, c'est qui? Eh bien, c'est Absalom, quand il a pris le pouvoir, il a cherché un peu à avoir des personnes de confiance. Et les personnes de confiance, on les trouve où? Dans sa famille. Alors, Amasa, en fait, c'est le fils d'Abigaïl. Et Abigaïl, c'est la sœur de Tserudja. Tserudja, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout, je vous comprends tout à fait. Et Tserudja, c'est la fille de Jessé. Et Jessé, c'est qui? C'est le papa de David. Donc, en fait, David, c'est l'oncle d'Amasa. Ah, voilà, on y arrive presque. Voilà, il est là-bas. J'ai mis des petits signes féminins, parce que je me suis dit, avec les noms, on ne saura pas forcément si c'est une femme ou un homme, en tout cas pour ma part. Alors voilà, Amasa, en fait, c'est le neveu de David. Et donc, quand Absalom s'est révolté, il a pris un de ses cousins pour le nommer chef de l'armée. Et puis, en fait, Joab, c'est pas n'importe qui. Joab, c'est le fils de Tserudja, qui est lui-même, qui est elle-même la fille de Jessé. Donc en fait, Joab, c'est le neveu de David. Puis Abishai, dont il est question, eh bien, c'est aussi le neveu de David. Et donc en fait, quand Joab va tuer Absalom, en fait, il va tuer son cousin. Hein, quand je vous ai dit que nos histoires de sa famille étaient finalement pas si compliquées que ça, je pense que c'est difficile de faire plus compliqué que la famille de David. Donc David, après ce qui s'est passé avec Absalom et puis le meurtre d'Absalom par Joab, il veut mettre Amasa à la tête de son armée. Il se dit, Absalom a réussi à rallier les gens avec Amasa, eh bien je vais le mettre à la tête de mon armée, à la place de Joab. Mais David, c'est un politicien, hein. C'est un roi, c'est un homme de guerre, mais c'est aussi un politicien. Donc son but, c'est un peu de rallier les gens autour de lui, et il fait ça très très bien. Si vous lisez l'histoire de David et que vous regardez le nombre d'alliés qu'il a réussi à se faire, c'est incroyable. Et là, il se dit, je vais me faire un allié de plus, mais il a un peu peur d'affronter Joab, parce que ce n'est pas la première fois que David n'est pas content avec Joab. Et puis il y a une autre fois aussi, on a un peu senti où il a essayé un peu de vouloir le mettre de côté, et où il a voulu mettre Abner, qui était lui aussi un chef de guerre, qui s'était rallié au fils de David. Eh bien, il avait fait ami-ami avec Abner, et puis Joab l'avait aussi, par traîtrise, tué. Et donc là, il se dit, mais je ne peux pas affronter Joab, parce que Joab, il a trop d'influence. Joab, il a pris une grande influence sur Israël, puis David, il se dit, mais si je me mets à dos Joab, je vais avoir de la peine à conduire mes troupes. Alors, plutôt que de dire frontalement, maintenant, tu n'es plus le chef de mon armée, il dit à Amasa, viens, toi, je te ferai chef de l'armée, mais je ne pense pas qu'il l'a fait de manière tout à fait officielle. Et puis après, il dit à Amasa, va rassembler mes troupes. Et c'est très intéressant, ça. Pourquoi est-ce qu'il demande à Amasa d'aller rassembler ses troupes? Parce que David sait très bien que si on confie la responsabilité à quelqu'un de rassembler les gens, eh bien cette personne aura la prééminence sur les autres. Et c'est quelque chose qu'on constate hein, dans les différentes organisations dans lesquelles on fait partie, que ce soit les entreprises ou bien l'Église, eh bien, on voit que la personne qu'on veut qui conduise, c'est la personne qui doit pouvoir rassembler. Alors, Hideo Hamasa, eh bien, va rassembler mes troupes. Si jamais vous ne suivez pas, hein, parce que c'est quand même un petit peu compliqué comme histoire, vous me faites « Eh oh, Benjamin, on est complètement perdu. » Vous êtes complètement perdu ? Qu'est-ce que... Ça va ? Je vais essayer de mieux expliquer les choses. Donc, Hamasa, neveu de David, part rassembler les troupes et Joab. Mais, et Joab n'est pas content, mais Hamasa, le problème qu'il a, c'est qu'il n'arrive pas à rassembler ses troupes à temps. Ce n'est pas facile hein, de rassembler les gens. Et il a seulement 3 jours pour le faire. Vous imaginez parcourir le territoire de Juda, j'imagine qu'il était à cheval, et puis dire à tous les hommes, « Et maintenant, vous laissez vos familles et puis vous venez avec moi. » 3 jours, et il n'arrive pas à le faire. Puis David, il dit, « Mais il ne faut pas que je fasse comme Absalom. » Parce que Absalom, s'il n'a pas réussi à m'avoir, c'est parce qu'il a tardé. Il a tardé à me courir après. Moi, je ne vais pas faire la même chose, je vais lui courir tout de suite après. Comme ça, il n'aura même pas le temps de rassembler ses forces qu'on va le zigouiller. Comme on dit ça, on tue le bébé dans l'œuf. C'est comme ça qu'on dit, une expression comme ça en français. Ben, c'est ce qu'il veut faire, mais on imagine bien. Hein, si le coq n'est pas encore sorti de l'œuf, il ne va pas pouvoir se défendre. Et c'est ça qu'il veut faire. Alors il dit, non pas à Joab, parce qu'il est en froid avec Joab, il dit à Abishai. Abishai, c'est le frère de Joab. Joab, il lui dit, eh ben, prends tes hommes et puis va combattre mon adversaire. Mais je vous ai dit, hein, David, c'est un politicien. Hein. Quand il dit à Abishai d'aller combattre Sheba, son adversaire, en fait, il est en train de dire à Joab, écoute, j'aimerais bien que tu me rendes service, mais j'ose pas te le dire en face. Donc, en demandant à Abishai d'aller combattre son ennemi, et on le voit dans la suite du texte, il demande à Joab de l'accompagner. Et puis, donc Abishai, Joab et tous leurs hommes partent au combat. Et c'est là que se passe cet assassinat de Hamasa de manière totalement traître. Et une chose qui m'a frappé dans ce texte, c'est la manière dont Joab peut continuer sa mission. Parce que, bon, je ne sais pas, est-ce que vous auriez envie de suivre un homme qui vient d'en assassiner un autre ? Bon, moyen, hein, vous avez beau avoir beaucoup de respect pour cet homme, vous savez que c'est un grand chef de guerre, mais quand même. Et là, en fait, Joab, pour pouvoir continuer son œuvre, pour pouvoir aller mener le combat que le roi lui a confié, eh bien, il a besoin qu'un serviteur prenne la parole et puis masque ses fautes. Donc, le serviteur va prendre le corps de Sheba qu'il vient d'assassiner et il va le mettre au bord du chemin avec une couverture par-dessus. Puis comme ça, ben, les gens ne le voient plus, on ne voit plus le mort, hein, il n'y a plus de problème. Vous connaissez ça, hein ? Enfin, si vous ne connaissez pas, il faut lire les journaux. Ah, ça se passe tout le temps, ça. Quand on ne connaît pas la faute, hein, c'est comme si elle n'existait pas. Et en fait, à cause de ça, Joab va pouvoir tranquillement continuer son parcours et puis aller mener son combat pour David, aller botter les fesses à Sheba, fils de Bikri, et puis il va avoir une victoire nette et écrasante. En fait, il y a une femme qui va lui proposer la tête de Sheba, et puis comme ça, il n'y aura pas de sang versé inutilement. Joab poursuit donc Sheba, ils arrivent dans une ville fortifiée, les habitants disent « Mais attends, on n'a pas envie de faire la guerre contre toi, on va se faire écraser », donc il coupe la tête à Sheba, puis il la jette par-dessus la muraille. Joab est content et il retourne chez lui, enfin chez David. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous fait un peu les parallèles avec Game of Thrones, si ça va. Si... et en fait, cette histoire, je la trouve assez terrible, parce qu'elle n'a pas de morale. Hein, parce qu'on arrive à la fin de cette histoire et il n'y a rien. Il n'y a pas de punition pour Joab, il n'y a pas de conclusion, rien. Et je pense qu'on peut quand même tirer certaines conclusions. Et je vais déjà en donner quelques-unes, puis après on ira un petit peu plus loin. C'est déjà, soyons en paix dans nos familles, hein. Je pense que ça vaut la peine. Puis si vous imaginez que vous avez des problèmes de famille, en fait, ce n'est pas vraiment des problèmes, hein. Je crois qu'il y a des possibilités de surmonter ces problèmes. Parce que malgré tous ces problèmes, ben c'est étonnant. Parce que David, il a réussi à accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Et ça a même probablement été le plus grand roi de tout Israël, à l'exception de Jésus, bien sûr. Et je me dis, mais des fois, on a l'impression que parce qu'on a des soucis, parce qu'il y a des choses qui arrivent, qu'on peut pas mener à bien la tâche que Dieu nous confie. Mais je crois, non, Dieu, il connaît toutes choses, et puis il va nous permettre de faire ce qu'il nous demande de faire. Et en fait, quand je dis qu'il n'y a pas de morale, c'est à moitié vrai. C'est à moitié vrai parce que ben David, il vieillit. Et puis, alors qu'il est vieux, on voit ça dans le livre des rois, ben, forcément les gens se disent, mais qui va succéder au roi? Surtout qu'il est tellement vieux qu'il ne peut plus rien faire. On met une jeune fille dans son lit et puis il ne peut rien faire avec. Donc ça, c'est vraiment le signe que David, il est foutu. C'est terrible hein, comme histoire. Moi, je me dis des fois, on dépeint David comme un gentil gaillard qui a tout bien fait. C'est un homme d'une grande qualité, un politicien remarquable. Il a su allier les gens, il a su les rassembler autour de lui. Il a su louer Dieu avec d'une manière que incroyable quand on lit tous les psaumes qu'il a écrits. Mais quand on voit certains détails de sa vie, on se dit ah! Et notamment cette histoire avec cette jeune fille qui est mise dans son lit à la fin de sa vie. C'est juste, on se dit mais la pauvre, quoi. Elle n'a pas eu le choix en plus. Je pense que ses parents lui ont dit, mais maintenant tu y vas, quoi. Bref, c'était le signe qu'il ne pouvait plus rien faire. Et donc, j'imagine que ça a dû un peu attiser la convoitise, ce royaume d'Israël qui avait été stabilisé par David, qui était un royaume glorieux. Et ben, de qui est-ce que ça a attisé les convoitises? Ben, de ses fils, et notamment de Adonijah. Adonijah, c'est le frère cadet d'Absalom. Donc, sauf s'il y a Daniel là que j'ai pas mis, parce que entre Amnon et Absalom, c'est celui qui aurait dû succéder au roi. Et donc, à un moment donné, il se dit, je vais rassembler mes troupes, et puis je vais devenir roi. De toute façon, j'imagine qu'il avait aussi un rôle pour gérer Israël. Le roi, il ne pouvait plus rien faire. Il y a bien quelqu'un qui devait gouverner le pays. Peut-être que le fils de David, Adonijah, jouait ce rôle-là. Et puis, à un moment donné, il se dit, bon, je vais me faire consacrer roi, avant que David prenne une autre décision. Alors, il se fait consacrer roi sans prévenir David. Et il invite, entre autres, à son sacre, Joab. Il obtient le soutien de Joab. Et puis, David se dit, c'est pas lui qui va me succéder. Celui qui va me succéder, c'est qui? Ça, vous savez. Salomon, exactement. Et je me demande si Adonijah, il n'avait pas. Enfin bref, Salomon. Salomon qui donc se fait consacrer roi, et puis avant de consacrer roi, David va lui émettre toute une série de recommandations. Et dans ces recommandations, il y a le fait de zigouiller Joab. Et moi je me dis, c'est quand même un sacré politicien, David. Et ça, c'est un truc en politique qui marche très bien. Quand vous avez un sale boulot à faire, il faut vous arranger que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse que vous. David l'avait très bien compris, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Et donc, Salomon, au début de son règne, il zigouille Joab. Et quand David dit ça à Salomon, il précise bien que ça concerne le meurtre d'Abner, je l'ai vaguement évoqué, et le meurtre d'Amasa. Et en fait, quand il avait tué Abner, quand Joab avait tué Abner, David avait prononcé une malédiction sur Joab en disant mais qu'il n'y ait personne dans sa famille, qu'il y ait toujours une personne dans sa famille, soit qui meurt d'une mort violente, soit qui soit estropié. C'est sympa hein, de dire ça à son neveu. Et là, il accomplit peut-être lui-même la malédiction qu'il a prononcé. Donc ça, c'est la seule morale qu'on peut voir un petit peu dans cette histoire. Et je dois dire, quand j'ai lu ça, ça m'a quand même un petit peu perturbé. C'est un texte qui m'a intrigué, puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers de ce texte? Et puis, tout d'un coup, il y a un détail qui m'a sauté aux yeux. C'est le rôle de ce serviteur qui va prendre le corps de Amasa et qui va le couvrir avec une couverture. Et avec ce simple geste de quelqu'un totalement inconnu, enfin, on ne sait pas s'il était inconnu, mais le texte le présente comme un inconnu, qui va juste mettre une couverture sur la faute de Joab, ça va lui permettre de résoudre son problème. Et je me suis dit, mais s'il a fallu seulement ça pour masquer une histoire injuste, eh bien, je crois que Jésus peut faire quelque chose pour nos problèmes. Parce que ce que le serviteur a fait, hein, qu'on soit bien clair, hein, il n'a absolument pas rétabli la justice. Hein, il a juste masqué une faute. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire? En fait, il vient un peu faire la même chose que ce serviteur. C'est que dans nos histoires de vie, qui sont parfois franchement dégoûtantes, bien Jésus vient faire la même chose. Il vient, notre crime là, où il y a un homme qui est encore en train de se rouler dans son sang, bien Jésus, il vient mettre un manteau et il vient pousser ce crime au bord de la route pour nous permettre de continuer notre chemin. Et ça, c'est à la fois perturbant et grandiose. Perturbant parce que on se dit, mais nous, on n'a pas envie que ça se passe comme ça. On aimerait un peu plus de justice, on aimerait pouvoir faire quelque chose pour nos péchés. Et puis en même temps, on sait bien qu'on ne peut rien faire. Et que la seule chose qu'on peut faire, c'est accepter que Jésus, il vienne mettre un voile sur notre péché. Et quand Jésus, il fait ça, eh bien, il nous permet de continuer la mission que Dieu nous a confiée. Il nous permet de continuer de marcher pour lui. Et il y a une grande différence entre l'histoire qu'on vient de dire et ce que Jésus fait. C'est que Jésus, non seulement il couvre cette faute, mais il nous propose la justice. Et ce, de deux manières. D'une part, eh bien, devant Dieu, il est mort pour nos péchés et il a payé la faute qu'on aurait dû prendre. Et puis, deuxièmement, il nous invite à marcher d'une manière droite. Et les crimes que nous avons commis, les choses qu'on peut réparer, eh bien les réparer. Ne pas se contenter de magouiller, ne pas se contenter de marcher d'une manière tordue, mais vraiment de pouvoir vivre dans la justice. Et ce qui est étonnant, c'est que quand Jésus il est mort sur la croix, après il est ressuscité. Et je crois qu'avec nos fautes, c'est un peu la même chose. Il les couvre, il les prend sur lui à la croix, et puis il nous invite après à marcher en nouveauté de vie. Il nous appelle à ce qu'il y ait un changement. Et je crois que c'est valable pour nos erreurs. Quand il y a de ces histoires de famille, il ne s'agit pas simplement de masquer le truc. Bien sûr, il faut se pardonner, il faut avancer ensemble, mais il faut aussi qu'il y ait des changements. Et ça, je crois que la résurrection de Christ nous appelle à se dire, mais oui, Christ a payé, on peut marcher maintenant d'une autre manière. Et on n'a pas besoin d'avoir toujours les mêmes fonctionnements, d'avoir toujours les mêmes histoires qui nous collent à la peau. Alors voilà, j'espère que cette histoire dans 2 Samuel chapitre 20 vous a parlé et puis vous a permis de renouveler votre confiance en Dieu. Oh, je vois des rires. Mais je vous invite à vraiment à méditer là-dessus et je crois que en Jésus, les choses, elles se passent différemment que ça. Je crois qu'il ne faut pas trop vite passer à la case Jésus en disant « Ah, c'est la même chose ». Non, 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 il y a quelque chose de radicalement différent avec Jésus-Christ. Et j'espère aussi que, en vous racontant cette histoire de cette manière, eh bien, ça vous aura donné envie un petit peu de creuser la parole de Dieu. Parce que quand on prend le temps un petit peu de creuser, ben on peut faire ressortir plein de choses. Puis on se dit, finalement, si Dieu a pu faire des grandes choses avec ces types-là, et bien probablement, que si je me mets à son écoute et que je suis prêt à marcher avec lui, il va pouvoir faire de grandes choses avec moi. Puis quand on voit les problèmes qu'ils ont eus, hein, les problèmes de pouvoir pour David, il s'est fait éjecter à droite ou à gauche, je ne sais pas si vous arrivez dans votre travail des fois, on vous gicle dans un service, dans un autre, on joue un petit peu de vous, il a eu la même chose David, pourtant c'était le roi. Ça n'a pas empêché Dieu d'intervenir. Les problèmes de famille, quand on a des problèmes d'éducation, quand on a des histoires avec des frères et sœurs qui sont irrésolus, je pense qu'on est tous à mille années-lumière de ce qui s'est passé dans la famille de David. Et pourtant, eh bien, il a quand même pu faire tout ce qu'il a fait, David, de manière étonnante. Alors je vous invite vraiment à placer votre confiance en Jésus, parce que je crois que Jésus peut nous conduire plus loin. Je vous propose qu'on prie ensemble. Seigneur, nous sommes devant toi intrigués par cette histoire. Et c'est vrai que même après avoir donné quelques pistes de réflexion, quelques mots que tu nous dis à travers cette histoire, eh bien on est quand même interloqués par ce qui s'est passé. Seigneur, on ne veut pas simplement rester interloqués avec cette histoire, mais on te prie que par ce texte, eh bien tu viennes nous parler, que tu viennes nous dire, tu viennes nous montrer ce que tu veux de nous aujourd'hui, ce que tu veux nous dire à travers ce texte. Seigneur, dans nos vies aussi, il y a des choses abjectes, il y a des choses qu'on n'aurait pas voulu faire comme ça, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. Et on a besoin que le Christ vienne couvrir nos fautes. Et Seigneur, on te prie de ne pas nous laisser dans des situations d'injustice comme celles que David, Joab, Amasa ont traversées. Mais on te prie que tu nous permettes de trouver un chemin qui soit juste, un chemin qui nous permette de faire rayonner ta gloire, de faire rayonner ton amour, et non pas juste de magouiller, de faire des tactiques de politicien. Seigneur, on te prie pour nos familles. Dans toutes les familles, il y a des histoires, plus ou moins graves. Seigneur, si tu as su comment faire avec David, tu sauras comment faire avec nos familles. Nous te les remettons. Seigneur, nous te demandons de renouveler notre conviction pour toi, notre passion. Nous te prions que cette ordre de marche de ta part soit vraiment claire dans nos vies et que nous ayons le courage, malgré les difficultés, malgré les problèmes qui surviennent, de continuer à marcher avec toi jour après jour. Seigneur, enfin, nous te demandons de renouveler notre passion pour la lecture de la Bible. Donne-nous de pouvoir la connaître de mieux en mieux, jour après jour, année après année, et à pouvoir comprendre ce que tu veux nous dire à travers ton Écriture. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen.